Ça, tome 1 de Stephen King. Lu par Jean-Philippe Pertuis.
Mais c'est pas du jeu,
pensa le garçonnet avec une soudaine et alarmante clarté d'esprit.
C'est un contrat.
C'est un contrat, grand Bill. Ou en tout cas, c'est ce qui y ressemble le plus, non? Il avait peur. Puis il eut honte et se sentit en colère contre lui-même. S'il s'était cassé le bras avant cet été, qui aurait signé son plâtre? Qui, en dehors de sa mère et peut-être du docteur Endor? Ses tantes de Haven? Ces six gosses étaient ses amis, et sa mère avait tort. Ce n'étaient pas de mauvais amis. Peut-être que ces histoires de bons et mauvais amis, cela n'existe pas. Peut-être n'y a-t-il que des amis, un point c'est tout, c'est-à-dire des gens qui sont à vos côtés quand ça va mal et qui vous aident à ne pas vous sentir trop seul. Peut-être vaut-il toujours la peine d'avoir peur pour eux, d'espérer pour eux, de vivre pour eux. Peut-être aussi vaut-il la peine de mourir pour eux, s'il faut en venir là. Bons amis, mauvais amis, non. Rien que des personnes avec lesquelles on a envie de se trouver. Des personnes qui bâtissent leur demeure dans votre cœur.
« D'accord, » répondit Eddie d'une voix un peu enrouée. « C'est une bonne idée, Bill. »
Le plus sérieusement du monde, Bill s'inclina alors sur le lit et écrivit son nom sur le moulage bosselé en plâtre de Paris dans lequel était enfermé le bras de son ami, en grosses lettres à boucle. Richie signa avec des fioritures. L'écriture de Ben était aussi minuscule qu'il était gros, et les lettres penchées en arrière, l'air prêtes à s'effondrer à la moindre poussée. Le griffonnage de Mike Hanlon fut maladroit car il était gaucher et écrivait sous un angle défavorable pour lui. Il plaça son nom au-dessus du coude d'Eddie et l'entoura d'un cercle. Quand Beverly se pencha sur lui, il sentit se dégager d'elle un léger parfum floral. Elle signa avec application en lettres scriptes, puis Stan, enfin, apposa son nom en petites lettres serrées à la hauteur du poignet d'Eddie. Tous s'écartèrent alors un peu comme s'ils prenaient conscience de ce qu'ils venaient de faire. À l'extérieur, le tonnerre grommelait de façon de plus en plus menaçante. De grands éclairs bégayants vinrent illuminer brièvement la façade de bois de l'hôpital.
« Ça y est ?»
demanda Eddie. Bill acquiesça.
« Viens chez moi après le dîner dans deux jours si tu peux, d'accord ?»
Eddie acquiesça à son tour. Et la question fut réglée. Il y eut encore quelques moments d'une conversation décousue, sans but. Elle porta en partie sur les sujets à sensation de l'été à Derry, le procès de Richard McLean, accusé d'avoir battu à mort son beau-fils Dorsey, et la disparition du frère aîné de Dorsey, Eddie Corcoran. Il allait falloir attendre encore deux jours pour voir McLean s'effondrer et se confesser en larmes sur le banc des témoins. Mais les membres du club des ratés étaient tous d'accord pour dire que McLean n'avait probablement rien à voir avec la disparition d'Eddie Corcoran. Soit le gamin avait fugué, soit il s'était fait avoir par ça. Ils le quittèrent aux environs de 7h moins le quart. La pluie ne s'était pas encore décidée à tomber. Elle continua de menacer pendant longtemps. La mère d'Eddie eut le temps de venir lui rendre visite et de rentrer chez elle. Non sans avoir été horrifiée à la vue des signatures sur le plâtre de son fils, et encore plus horrifiée de ce qu'il était bien déterminé à quitter l'hôpital le lendemain. Elle avait envisagé un séjour d'au moins une semaine dans une absolue tranquillité, afin que les deux bouts puissent se recoller, comme elle disait. Finalement, les nuages se dissipèrent et furent emportés par le vent. Pas une goutte d'eau n'était tombée sur Derry. L'humidité demeura, et cette nuit-là, les gens dormirent sous leurs porches, dans leurs jardins ou dans les champs. La pluie ne tomba que le lendemain, peu de temps après que Beverly eut assisté à ce qui était arrivé à Patrick Cockstetter. Quelque chose de terrible.